La prisonnière, chapitre 2, suite 3. Pour en revenir à Monsieur de Charlus, Madame Verdurin n'eût pas trop souffert s'il n'avait mis à l'index que la comtesse Molé et Madame Bontemps, qu'elle avait distinguée chez Odette à cause de son amour des arts, et qui, pendant l'affaire Dreyfus, était venue quelquefois dîner avec son mari, que Madame Verdurin appelait un tiède parce qu'il n'introduisait pas le procès en révision, mais qui, fort intelligent et heureux de se créer des intelligences dans toutes les parties, était enchanté de montrer son indépendance en dînant avec la Borie, qu'il écoutait sans rien dire de compromettant, mais glissant au bon endroit un hommage à la loyauté, reconnue dans tous les partis, de Jaurès. Mais le baron avait également proscrit quelques dames de l'aristocratie, avec lesquelles Madame Verdurin était, à l'occasion de solennités musicales, de collections, de charité, entrée récemment en relation, et qui, quoique M. de Charlus pût penser d'elle, eussent été, beaucoup plus que lui-même, des éléments essentiels pour former chez Madame Verdurin un nouveau noyau. Aristocratique, celui-là. Madame Verdurin avait justement compté sur cette fête où M. de Charlus lui amènerait des femmes du même monde pour leur adjoindre ses nouvelles amies, et avait joui d'avance de la surprise qu'elles auraient à rencontrer, qu'ai Conti, leurs amies ou parentes invitées par le baron. Elle était déçue et furieuse de son interdiction. Restait à savoir si la soirée, dans ces conditions, se traduirait pour elle par un profit ou par une perte. Celle-ci ne serait pas trop grave si, du moins, les invités de M. de Charlus venaient avec des dispositions si chaleureuses pour Madame Verdurin qu'elles deviendraient pour elle les amies d'avenir. Dans ce cas, il n'y aurait qu'un demi-mal, et un jour prochain, ces deux moitiés du grand monde, que le baron avait voulu tenir isolées, on les réunirait, quitte à ne pas la voir, lui, ce soir-là. Madame Verdurin attendait donc les invités du baron avec une certaine émotion. Elle n'allait pas tarder à savoir l'état d'esprit où elle venait et les relations que la patronne pouvait espérer avoir avec elle. En attendant, Madame Verdurin se consultait avec les fidèles. Mais, voyant M. de Charlus qui entrait avec Brichot et moi, elle s'arrêta net. À notre grand étonnement, quand Brichot lui dit sa tristesse de savoir que sa grande amie était si mal, Madame Verdurin répondit « Écoutez, je suis obligée d'avouer que de tristesse, je n'en éprouve aucune. Il est inutile de feindre les sentiments qu'on ne ressent pas. » Sans doute, elle parlait ainsi par manque d'énergie, parce qu'elle était fatiguée à l'idée de se faire un visage triste pour toute sa réception. Par orgueil, pour ne pas avoir l'air de chercher des excuses à ne pas avoir décommandé celle-ci. Par respect humain, pourtant, et habileté, parce que le manque de chagrin dont elle faisait preuve était plus honorable s'il devait être attribué à une antipathie particulière, soudain révélée envers la princesse, plutôt qu'à une insensibilité universelle, et parce qu'on ne pouvait s'empêcher d'être désarmé par une sincérité qu'il n'était pas question de mettre en doute. Si Madame Verdurin n'avait pas été vraiment indifférente à la mort de la princesse, eût-elle été, pour expliquer qu'elle reçut, s'accuser d'une faute bien plus grave? D'ailleurs, on oubliait que Madame Verdurin eût avoué, en même temps que son chagrin, qu'elle n'avait pas eu le courage de renoncer à un plaisir. Or, la dureté de l'ami était quelque chose de plus choquant, de plus immoral, mais de moins humiliant, par conséquent, de plus facile à avouer que la frivolité de la maîtresse de maison. En matière de crime, là où il y a danger pour le coupable, c'est l'intérêt qui dicte les aveux. Pour les fautes sans sanction, c'est l'amour-propre. Soit que, trouvant sans doute bien usé le prétexte des gens qui, pour ne pas laisser interrompre par les chagrins leur vie de plaisir, vont répétant qu'il leur semble vain de porter extérieurement un deuil qu'ils ont dans le cœur. Madame Verdurin préféra imiter ces coupables intelligents, à qui répugnent les clichés de l'innocence et dont la défense, demi-aveu sans qu'ils s'en doutent, consiste à dire qu'ils n'auraient vu aucun mal à commettre ce qui leur est reproché et que par hasard, du reste, ils n'ont pas eu l'occasion de faire. Soit qu'ayant adopté, pour expliquer sa conduite, la thèse de l'indifférence, elle trouva, une fois lancée sur la pente de son mauvais sentiment, qu'il y avait quelque originalité à l'éprouver, une perspicacité rare à avoir su le démêler, et un certain culot à le proclamer. Ainsi, Madame Verdurin tint à insister sur son manque de chagrin, non sans une certaine satisfaction orgueilleuse de psychologue paradoxal et de dramaturge hardi. « Oui, c'est très drôle, » dit-elle, « ça ne m'a presque rien fait. Mon Dieu, je ne peux pas dire que je n'aurais pas mieux aimé qu'elle vécût, ce n'était pas une mauvaise personne. » « Si, » interrompit M. Verdurin. « Ah, lui ne l'aime pas, parce qu'il trouvait que cela me faisait du tort de la recevoir, mais il est aveuglé par ça. » « Rends-moi cette justice, » dit M. Verdurin, « que je n'ai jamais approuvé cette fréquentation. Je t'ai toujours dit qu'elle avait mauvaise réputation. » « Mais je ne l'ai jamais entendu dire, » protesta sa nièce. « Mais comment ? » s'écria Mme Verdurin. « C'était universellement connu. Pas mauvaise, mais honteuse, déshonorante. Non, mais ce n'est pas à cause de cela. Je ne saurais pas moi-même expliquer mon sentiment. Je ne la détestais pas, mais elle m'était tellement indifférente que, quand nous avons appris qu'elle était très mal, mon mari lui-même a été étonné et m'a dit « On dirait que cela ne te fait rien. » Mais tenez, ce soir, il m'avait offert de décommander la répétition, et j'ai tenu, au contraire, à la donner, parce que j'aurais trouvé une comédie de témoigner un chagrin que je n'éprouve pas. » Elle disait cela parce qu'elle trouvait que c'était curieusement théâtre libre, et aussi que c'était joliment commode, car l'insensibilité ou l'immoralité avouée simplifie autant la vie que la morale facile. Elle fait des actions blâmables et pour lesquelles on n'a plus alors besoin de chercher d'excuses, un devoir de sincérité. Et les fidèles écoutaient les paroles de Madame Verdurin, avec le mélange d'admiration et de malaise que certaines pièces cruellement réalistes et d'une observation pénible causaient parfois. Et tout en s'émerveillant de voir leur chère patronne donner une forme nouvelle de sa droiture et de son indépendance, plus d'un, tout en se disant qu'après tout, ce ne serait pas la même chose, pensait à sa propre mort et se demandait si, le jour qu'elle surviendrait, on pleurerait ou on donnerait une fête qu'est Conti. « Je suis bien content que la soirée n'ait pas été décommandée, à cause de mes invités, » dit M. de Charlus, qui ne se rendait pas compte qu'en s'exprimant ainsi, il froissait Madame Verdurin. Cependant, j'étais frappée, comme chaque personne qui approcha ce soir-là Madame Verdurin, par une odeur assez peu agréable de rhinogoménol. Voici à quoi cela tenait. On sait que Madame Verdurin n'exprimait jamais ses émotions artistiques d'une façon morale, mais physique, pour qu'elles semblassent plus inévitables et plus profondes. Or, si on lui parlait de la musique de Vinteuil, sa préférée, elle restait indifférente, comme si elle n'en attendait aucune émotion. Mais après quelques minutes de regard immobile, presque distrait, sur un ton précis, pratique, presque peu poli, comme si elle vous avait dit « Cela me serait égal que vous fumiez, mais c'est à cause du tapis, il est très beau. » Ce qui me serait encore égal, mais il est très inflammable, j'ai très peur du feu, et je ne voudrais pas vous faire flamber tous pour un bout de cigarette mal éteinte que vous auriez laissé tomber par terre. » Elle vous répondait, Je n'ai rien contre Vinteuil. À mon sens, c'est le plus grand musicien du siècle. Seulement, je ne peux pas écouter ces machines-là sans cesser de pleurer un instant. » Elle ne disait nullement « pleurer » d'un air pathétique. Elle aurait dit d'un air aussi naturel « dormir ». Certaines méchantes langues prétendaient même que ce dernier verbe eût été plus vrai, personne ne pouvant, du reste, décider, car elle écoutait cette musique-là, la tête dans ses mains, et certains bruits ronfleurs pouvaient, après tout, être des sanglots. « Pleurer, ça ne me fait pas mal, tant qu'on voudra, seulement ça me fiche après des rhumes à tout casser. Cela me congestionne la muqueuse, et 48 heures après, j'ai l'air d'une vieille poivrotte. Et pour que mes cordes vocales fonctionnent, il me faut faire des journées d'inhalation. Enfin, un élève de Cottard, un être délicieux, m'a soigné pour ça. Il professe un axiome assez original. Mieux vaut prévenir que guérir. Et il me graisse le nez avant que la musique commence. C'est radical. Je peux pleurer comme je ne sais pas combien de mères qui auraient perdu leurs enfants. Pas le moindre rhume. Quelquefois un peu de conjonctivite, mais c'est tout. L'efficacité est absolue. Sans cela, je n'aurais pu continuer à écouter du Vinteuil. Je ne faisais plus que tomber d'une bronchite dans une autre. » Je ne pus plus me retenir de parler de Mademoiselle Vinteuil. « Est-ce que la fille de l'auteur n'est pas là ? » demandai-je à Madame Verdurin. « Ainsi qu'une de ses amies ?»« Non, je viens justement de recevoir une dépêche, » me dit évasivement Madame Verdurin. « Elles ont été obligées de rester à la campagne. » J'eus un instant l'espérance qu'il n'avait peut-être jamais été question qu'elles la quittassent, et que Madame Verdurin n'avait annoncé ses représentants de l'auteur que pour impressionner favorablement les interprètes et le public. « Comment alors? Elles ne sont même pas venues à la répétition de tantôt ?» dit avec une fausse curiosité le baron, qui voulut paraître ne pas avoir vu Charlie. Celui-ci vint me dire bonjour. Je l'interrogeai à l'oreille, relativement à Mademoiselle Vinteuil. Il me sembla fort peu au courant. Je lui fis signe de ne pas parler haut et l'avertit que nous en recoserions. Il s'inclina, en me promettant qu'il serait trop heureux d'être à ma disposition entière. Je remarquai qu'il était beaucoup plus poli, beaucoup plus respectueux qu'autrefois. Je fis compliment de lui qui pourrait peut-être m'aider à éclaircir mes soupçons, à Monsieur de Charlus, qui me répondit « Il ne fait que ce qu'il doit. Ce ne serait pas la peine qu'il vécût avec des gens comme il faut pour avoir de mauvaises manières. » Les bonnes, selon Monsieur de Charlus, étaient les vieilles manières françaises, sans ombre de raideur britannique. Ainsi, quand Charlie, revenant de faire une tournée en province ou à l'étranger, débarquait en costume de voyage chez le baron, celui-ci, s'il n'y avait pas trop de monde, l'embrassait sans façon sur les deux joues, peut-être un peu pour ôter, par tant d'ostentation, de sa tendresse, toute idée qu'elle pût être coupable, peut-être pour ne pas se refuser un plaisir, mais plus encore sans doute par littérature, pour maintien et illustration des anciennes manières de France. Et comme il aurait protesté contre le style munichois ou le moderne style, en gardant de vieux fauteuils de son arrière-grand-mère, opposant au flegme britannique la tendresse d'un père sensible du XVIIIe siècle qui ne dissimule pas sa joie de revoir un fils. Y avait-il enfin une pointe d'inceste dans cette affection paternelle? Il est plus probable que la façon dont M. de Charlus contentait habituellement son vice, et sur laquelle nous recevrons ultérieurement quelques éclaircissements, ne suffisait pas à ses besoins affectifs, restés vacants depuis la mort de sa femme. Toujours est-il qu'après avoir songé plusieurs fois à se remarier, il était travaillé maintenant d'une maniaque envie d'adopter. On disait qu'il allait adopter Morel, et ce n'est pas extraordinaire. L'inverti, qui n'a pu nourrir sa passion qu'avec une littérature écrite pour les hommes à femmes, qui pensait aux hommes en lisant les Nuits de Musset, éprouve le besoin d'entrer de même dans toutes les fonctions sociales de l'homme qui n'est pas inverti, d'entretenir un amant, comme le vieil habitué de l'opéra des danseuses, d'être rangé, d'épouser ou de se coller, d'être père. Monsieur de Charlus s'éloigna avec Morel, sous prétexte de se faire expliquer ce qu'on allait jouer, trouvant surtout une grande douceur, tandis que Charlie lui montrait sa musique, à étaler ainsi publiquement leur intimité secrète. Pendant ce temps-là, j'étais charmée. Car, bien que le petit clan comportât peu de jeunes filles, on en invitait pas mal, par compensation, les jours de grandes soirées. Il y en avait plusieurs, et de fort belles, que je connaissais. Elles m'envoyaient de loin un sourire de bienvenue. L'air était ainsi décoré de moment en moment, d'un beau sourire de jeune fille. C'est l'ornement multiple et épars des soirées, comme des jours. On se souvient d'une atmosphère parce que des jeunes filles y ont souri. On eût été bien étonné si l'on avait noté les propos furtifs que M. de Charlus avait échangés avec plusieurs hommes importants de cette soirée. Ces hommes étaient deux ducs, un général éminent, un grand écrivain, un grand médecin, un grand avocat. Or, les propos avaient été: à propos, avez-vous vu le valet de pied? Je parle du petit qui monte sur la voiture. Et chez notre cousine Guermantes, vous ne connaissez rien? Actuellement, non. Dites donc, devant la porte d'entrée aux voitures, il y avait une jeune personne blonde, en culotte courte, qui m'a semblé tout à fait sympathique. Elle m'a appelé très gracieusement ma voiture. J'aurais volontiers prolongé la conversation. Oui, mais je la crois tout à fait hostile, et puis ça fait des façons. Vous qui aimez que les choses réussissent du premier coup, vous seriez dégoûté. Du reste, je sais qu'il n'y a rien à faire. Un de mes amis a essayé. C'est regrettable. J'avais trouvé le profil très fin et les cheveux superbes. Vraiment, vous trouvez ça si bien que ça? Je crois que si vous l'aviez vu un peu plus, vous auriez été désillusionné. Non, c'est au buffet qu'il y a encore 2 mois, vous auriez vu une vraie merveille. Un grand gaillard de 2 mètres, une peau idéale, et puis aimant ça. Mais c'est parti pour la Pologne. Ah, oh, c'est un peu loin. Qui sait, ça reviendra peut-être. On se retrouve toujours dans la vie. Il n'y a pas de grande soirée mondaine si, pour en avoir une coupe, on sait la prendre à une profondeur suffisante, qui ne soit pareille à ces soirées où les médecins invitent leurs malades, lesquels tiennent des propos fort sensés, ont de très bonnes manières, et ne montreraient pas qu'ils sont fous s'ils ne vous glissaient à l'oreille en vous montrant un vieux monsieur qui passe. C'est Jeanne d'Arc. Je trouve que ce serait de notre devoir de l'éclairer, dit Madame Verdurin à Brichot. Ce que je fais n'est pas contre Charlus, au contraire, il est agréable, et quant à sa réputation, je vous dirai qu'elle est d'un genre qui ne peut pas me nuire. Même moi, qui pour notre petit clan, pour nos dîners de conversation, déteste les flirts, les hommes disant des inepties à une femme dans un coin au lieu de traiter des sujets intéressants. Avec Charlus, je n'avais pas à craindre ce qui m'est arrivé avec Swann, avec Elstir, avec tant d'autres. Avec lui, j'étais tranquille. Il arrivait là, à mes dîners, il pouvait y avoir toutes les femmes du monde, on était sûr que la conversation générale n'était pas troublée par des flirts, des chuchotements. Charlus, c'est à part, on est tranquille. C'est comme un prêtre. Seulement, il ne faut pas qu'il se permette de régenter les jeunes gens qui viennent ici et de porter le trouble dans notre petit noyau. Sans cela, ce sera encore pire qu'un homme à femme. Et Madame Verdurin était sincère en proclamant ainsi son indulgence pour le charlisme. Comme tout pouvoir ecclésiastique, elle jugeait les faiblesses humaines moins graves que ce qui pouvait affaiblir le principe d'autorité. Nuire à l'orthodoxie, modifier l'antique credo dans sa petite église. Sans cela, moi, je montre les dents. Voilà un monsieur qui a voulu empêcher Charlie de venir à une répétition parce qu'il n'y était pas convié. Oh, si, il va avoir un avertissement sérieux. J'espère que cela lui suffira. Sans cela, il n'aura qu'à prendre la porte. Il le chambre, ma parole. » Et usant exactement des mêmes expressions que presque tout le monde aurait employées, car il en est certaine, pas habituelle, que tel sujet particulier, telle circonstance donnée, font affluer presque nécessairement à la mémoire du causeur, qui croit exprimer librement sa pensée et ne fait que répéter machinalement la leçon universelle. Elle ajouta : On ne peut plus voir Morel sans qu'il soit affublé de ce grand escogriffe, de cette espèce de garde du corps. » M. Verdurin proposa d'emmener un instant Charlie pour lui parler, sous prétexte de lui demander quelque chose. Madame Verdurin craignit qu'il ne fût ensuite troublé et joua mal. Il vaudrait mieux retarder cette exécution jusqu'après celle des morceaux, et peut-être même jusqu'à une autre fois. Car Madame Verdurin avait beau tenir à la délicieuse émotion qu'elle éprouverait quand elle saurait son mari en train d'éclairer Charlie dans une pièce voisine, elle avait peur, si le coup ratait, qu'il ne se fâchât et lâchât le 16. Ce qui perdit Monsieur de Charlus ce soir-là fut la mauvaise éducation, si fréquente dans ce monde, des personnes qu'il avait invitées et qui commençaient à arriver. Venus à la fois par amitié pour M. de Charlus et avec la curiosité de pénétrer dans un endroit pareil, chaque duchesse allait droit au baron, comme si c'était lui qui avait reçu, et disait, juste à un pas des Verdurin qui entendaient tout, « Montrez-moi où est la mère Verdurin. Croyez-vous que ce soit indispensable que je me fasse présenter? J'espère au moins qu'elle ne fera pas mettre mon nom dans le journal demain. » Il y aurait de quoi me brouiller avec tous les miens. Comment? Comment? C'est cette femme à cheveux blancs? Mais elle n'a pas trop mauvaise façon. » Entendant parler de Mademoiselle Vinteuil, d'ailleurs absente, plus d'une disait « Ah, la fille de la sonate! Montrez-moi-la !» Et retrouvant beaucoup d'amis, elle faisait bande à part, épiait, pétillante de curiosité ironique, l'entrée des fidèles. Trouvait tout au plus à se montrer du doigt la coiffure un peu singulière d'une personne qui, quelques années plus tard, devait la mettre à la mode dans le plus grand monde, et, somme toute, regrettait de ne pas trouver ce salon aussi dissemblable de ceux qu'elle connaissait, qu'elles avaient espéré, éprouvant le désappointement de gens du monde qui, étant allés dans la boîte à bruant dans l'espoir d'être engueulés par le chansonnier, se seraient vus, à leur entrée, accueillis par un salut correct au lieu du refrain attendu. « Ah, voyez c'te gueule, c'te binette! Ah, voyez c'te gueule qu'elle a !» Monsieur de Charlus avait, à Balbec, finement critiqué devant moi Madame de Vaugoubert, qui, malgré sa grande intelligence, avait causé, après la fortune inespérée, l'irrémédiable disgrâce de son mari. Les souvenirs auprès desquels M. de Vaugoubert était accrédité, le roi Théodose et la reine d'Oxie étant revenus à Paris, mais cette fois pour un séjour de quelque durée, des fêtes quotidiennes avaient été données en leur honneur, au cours desquelles la reine, liée avec Madame de Vaugoubert, qu'elle voyait depuis 10 ans dans sa capitale, et ne connaissant ni la femme du président de la République, ni les femmes des ministres, s'était détournée de celle-ci pour faire bande à part avec l'ambassadrice. Celle-ci, croyant sa position hors de toute atteinte, M. de Vaugoubert étant l'auteur de l'alliance entre le roi Théodose et la France, avait conçu, de la préférence que lui marquait la reine, une satisfaction d'orgueil, mais nulle inquiétude du danger qui la menaçait et qui se réalisa quelques mois plus tard en l'événement, jugé à tort impossible par le couple trop confiant, de la brutale mise à la retraite de M. de Vaugoubert. M. de Charlus, commentant dans le Tortillard la chute de son ami d'enfance, s'étonnait qu'une femme intelligente n'eût pas, en pareille circonstance, fait servir toute son influence sur les souverains, à obtenir d'eux qu'elle parût n'en posséder aucune, et à leur faire reporter sur les femmes du président de la République et des ministres une amabilité dont elles eussent été d'autant plus flattées, c'est-à-dire dont elles eussent été plus près, dans leur contentement, de savoir gré au Vaugoubert, qu'elles eussent cru que cette amabilité était spontanée et non pas dictée par eux. Mais qui voit le tort des autres, pour peu que les circonstances le grisent, y succombe souvent lui-même. Et M. de Charlus, pendant que ses invités se frayaient un chemin pour venir le féliciter, le remercier comme s'il avait été le maître de maison, ne songea pas à leur demander de dire quelques mots à Madame Verdurin. Seule la reine de Naples, en qui vivait le même noble sang qu'en ses sœurs, l'impératrice Élisabeth et la duchesse d'Alençon, se mit à causer avec Madame Verdurin, comme si elle était venue pour le plaisir de la voir, plus que pour la musique et pour Monsieur de Charlus. Fit mille déclarations à la patronne, ne tarit pas sur l'envie qu'elle avait depuis si longtemps de faire sa connaissance, la complimenta sur sa maison et lui parla des sujets les plus divers, comme si elle était en visite. « Elle eût tant voulu amener sa nièce, Élisabeth, disait-elle, celle qui devait peu après épouser le prince Albert de Belgique, et qui regretterait tant. » Elle se tut en voyant les musiciens s'installer sur l'estrade et se fit montrer Morel. Elle ne devait guère se faire d'illusions sur les motifs qui portaient M. de Charlus à vouloir qu'on entourât le jeune virtuose de tant de gloire. Mais sa vieille sagesse de souveraine, en qui coulait un des sangs les plus nobles de l'histoire, les plus riches d'expérience, de scepticisme et d'orgueil, lui faisait seulement considérer les tares inévitables des gens qu'elle aimait le mieux, comme son cousin Charlus, fils comme elle d'une duchesse de Bavière, comme des infortunes qui leur rendaient plus précieux l'appui qu'ils pouvaient trouver en elle, et faisaient, en conséquence, qu'elle avait plus de plaisir encore à le leur fournir. Elle savait que M. de Charlus serait doublement touché qu'elle se fût dérangée en pareille circonstance. Seulement, aussi bonne qu'elle s'était jadis montrée brave, cette femme héroïque, qui, reine soldat, avait fait elle-même le coup de feu sur les remparts de Gaète, toujours prête à aller chevaleresquement du côté des faibles, voyant Madame Verdurin seule et délaissée, et qui ignorait d'ailleurs qu'elle n'eût pas dû quitter la reine, avait cherché à feindre que pour elle, reine de Naples, le centre de cette soirée, le point attractif qu'il avait fait venir, c'était Madame Verdurin. Elle s'excusa sur ce qu'elle ne pourrait pas rester jusqu'à la fin, devant, quoiqu'elle ne sortît jamais, aller à une autre soirée, et demandant que, surtout quand elle s'en irait, on ne se dérangeât pas pour elle, tenant ainsi Madame Verdurin quitte d'honneur que celle-ci ne savait du reste pas qu'on avait à lui rendre. Il faut rendre pourtant cette justice à M. de Charlus que, s'il oublia entièrement Madame Verdurin, et la laissa oublier, jusqu'au scandale, par les gens de son monde, à lui qui l'avait invité, il comprit, en revanche, qu'il ne devait pas laisser ceci garder, en face de la manifestation musicale elle-même, les mauvaises façons dont ils usaient à l'égard de la patronne. Morel était déjà monté sur l'estrade, les artistes se groupaient, que l'on entendait encore des conversations, voire des rires, des « il paraît qu'il faut être initié pour comprendre ». Aussitôt, M. de Charlus, redressant sa taille en arrière, comme entré dans un autre corps que celui que j'avais vu tout à l'heure arriver en traînaillant chez Madame Verdurin, prit une expression de prophète et regarda l'assemblée avec un sérieux qui signifiait que ce n'était pas le moment de rire, et dont on vit rougir brusquement le visage de plus d'une invitée prise en faute, comme une élève par son professeur en pleine classe. Pour moi, L'attitude, si noble d'ailleurs, de M. de Charlus avait quelque chose de comique, car tantôt il foudroyait ses invités de regards enflammés, tantôt, afin de leur indiquer comme un vade-mecum le religieux silence qu'il convenait d'observer, le détachement de toute préoccupation mondaine, il présentait lui-même, élevant vers son beau front ses mains gantées de blanc, un modèle, auquel on devait se conformer, de gravité, presque déjà d'extase, sans répondre au salut des retardataires, assez indécents, pour ne pas comprendre que l'heure était maintenant au grand art. Tous furent hypnotisés. On n'osa plus proférer un son, bouger une chaise. Le respect pour la musique, de par le prestige de Palamède, avait été subitement inculqué à une foule aussi mal élevée qu'élégante. En voyant se ranger sur la petite estrade, non pas seulement Morel et un pianiste, mais d'autres instrumentistes, je crus qu'on commençait par des œuvres d'autres musiciens que Vinteuil, car je croyais qu'on ne possédait de lui que sa sonate pour piano et violon. Madame Verdurin s'assit à part. Les hémisphères de son front blanc et légèrement rosé, magnifiquement bombé, les cheveux écartés, moitié en imitation d'un portrait du XVIIIe siècle, moitié par besoin de fraîcheur d'une fiévreuse qu'une pudeur empêche de dire son état. Isolée, divinité qui présidait aux solennités musicales, déesse du wagnérisme et de la migraine, sorte de norme, presque tragique, évoquée par le génie au milieu de ses ennuyeux, devant qui elle allait dédaigner plus encore que de coutume d'exprimer des impressions en entendant une musique qu'elle connaissait mieux qu'eux. Le concert commença. Je ne connaissais pas ce qu'on jouait. Je me trouvais en pays inconnu. Où le situer ? Dans l'œuvre de quel auteur étais-je ? J'aurais bien voulu le savoir. Et n'ayant près de moi personne à qui le demander, j'aurais bien voulu être un personnage de ces mille et une nuits que je relisais sans cesse, et où, dans les moments d'incertitude, surgit soudain un génie, ou une adolescente d'une ravissante beauté, invisible pour les autres, mais non pour le héros embarrassé, à qui elle révèle exactement ce qu'il désire savoir. Or, à ce moment, je fus précisément favorisée d'une telle apparition magique. Comme, dans un pays qu'on ne croit pas connaître, et qu'en effet on a abordé par un côté nouveau, lorsque, après avoir tourné un chemin, on se trouve tout d'un coup débouché dans un autre dont les moindres coins vous sont familiers, mais seulement où on n'avait pas l'habitude d'arriver par là. On se dit « Mais c'est le petit chemin qui mène à la petite porte du jardin de mes amis X. Je suis à 2 minutes de chez eux. » Et leur fille est en effet là qui est venue vous dire bonjour au passage. Ainsi, tout d'un coup, je me reconnus au milieu de cette musique nouvelle pour moi, en pleine sonate de Vinteuil. Et, plus merveilleuse qu'une adolescente, la petite phrase, enveloppée, harnachée d'argent, toute ruisselante de sonorités brillantes, légères et douces comme des écharpes, vint à moi, reconnaissable sous ses parures nouvelles. Ma joie de l'avoir retrouvée s'accroissait de l'accent si amicalement connu qu'elle prenait pour s'adresser à moi, si persuasif, si simple, non sans laisser éclater pourtant cette beauté chatoyante dont elle resplendissait. La signification, d'ailleurs, n'était cette fois que de me montrer le chemin, et qui n'était pas celui de la sonate, car c'était une œuvre inédite de Vinteuil où il s'était seulement amusé, par une allusion que justifiait à cet endroit un mot du programme, qu'on aurait dû avoir en même temps sous les yeux, à faire apparaître un instant la petite phrase. À peine rappelée ainsi, elle disparut, et je me retrouvai dans un monde inconnu. Mais je savais maintenant, et tout ne cessa plus de me confirmer, que ce monde était un de ceux que je n'avais même pu concevoir que Vinteuil eût créé. Car quand, fatigué de la sonate, qui était un univers épuisé pour moi, J'essayais d'en imaginer d'autres, aussi beaux mais différents. Je faisais seulement comme ces poètes qui remplissent leur prétendu paradis de prairies, de fleurs, de rivières, qui font double emploi avec celle de la terre. Ce qui était devant moi me faisait éprouver autant de joie qu'aurait fait la sonate si je ne l'avais pas connue. Par conséquent, en étant aussi beau, était autre. Tandis que la sonate s'ouvrait sur une aube liliale et champêtre, divisant sa candeur légère pour se suspendre à l'emmêlement léger et pourtant consistant d'un berceau rustique de chèvrefeuilles sur des géraniums blancs. C'était sur des surfaces unies et planes, comme celles de la mer, que, par un matin d'orage déjà tout empourpré, commençait, au milieu d'un aigre silence, dans un vide infini, l'œuvre nouvelle. Et c'est dans un rose d'aurore que, pour se construire progressivement devant moi, cet univers inconnu était tiré du silence et de la nuit. Ce rouge, si nouveau, si absent de la tendre, champêtre et candide sonate, teignait tout le ciel, comme l'aurore, d'un espoir mystérieux. Et un chant perçait déjà l'air, chant de 7 notes, mais le plus inconnu, le plus différent de tout ce que j'eusse jamais imaginé, de tout ce que j'eusse jamais pu imaginer, à la fois ineffable et criard. Non plus un roucoulement de colombe comme dans la sonate, mais déchirant l'air, aussi vif que la nuance écarlate dans laquelle le début était noyé. Quelque chose comme un mystique chant du coq, un appel ineffable, mais suraigu de l'éternel matin. L'atmosphère froide, lavée de pluie, électrique, d'une qualité si différente, à des pressions tout autres, dans un monde si éloigné de celui, virginal et meublé de végétaux, de la sonate, changeait à tout instant, effaçant la promesse empourprée de l'aurore. À midi pourtant, dans un ensoleillement brûlant et passager, elle semblait s'accomplir en un bonheur lourd, villageois et presque rustique, où la titubation de cloches retentissantes et déchaînées, pareilles à celles qui incendiaient de chaleur la place de l'église à Combray, et que Vinteuil, qui avait dû souvent les entendre, avait peut-être trouvé à ce moment-là dans sa mémoire, comme une couleur qu'on a apportée de sa main sur une palette, semblait matérialiser la plus épaisse joie. À vrai dire, esthétiquement, ce motif de joie ne me plaisait pas. Je le trouvais presque laid. Le rythme s'entraînait si péniblement à terre qu'on aurait pu en imiter presque tout l'essentiel, rien qu'avec des bruits, en frappant d'une certaine manière des baguettes sur une table. Il me semblait que Vinteuil avait manqué là d'inspiration. Et, en conséquence, je manquais aussi, là, un peu de force d'attention. Je regardais la patronne, dont l'immobilité farouche semblait protester contre les battements de mesure exécutés par les têtes ignorantes des dames du faubourg. Madame Verdurin ne disait pas « Vous comprenez que je la connais un peu, cette musique, et un peu encore. S'il me fallait exprimer tout ce que je ressens, vous n'en auriez pas fini. » Elle ne le disait pas. Mais sa taille droite et immobile, ses yeux sans expression, ses mèches fuyantes, le disaient pour elle. Il disait aussi son courage, que les musiciens pouvaient y aller, ne pas ménager ses nerfs, qu'elle ne flancherait pas à l'andante, qu'elle ne crierait pas à l'allegro. Je regardais ses musiciens. Le violoncelliste dominait l'instrument qu'il serrait entre ses genoux, inclinant sa tête, à laquelle des traits vulgaires donnaient, dans les instants de maniérisme, une expression involontaire de dégoût. Il se penchait sur sa contrebasse, la palpait avec la même patience domestique que s'il eût épluché un chou. Tandis que, près de lui, la harpiste, encore enfant, en jupe courte, dépassée de tous côtés par les rayons horizontaux du quadrilatère d'or, pareils à ceux qui, dans la chambre magique d'une sibylle, figureraient arbitrairement les terres selon les formes consacrées, semblait aller y chercher, çà et là, au point exigé, un son délicieux, de la même manière que, petite déesse allégorique, dressée devant le treillage d'or de la voûte céleste, elle y aurait cueilli, une à une, des étoiles. Quant à Morel, une mèche, jusque-là invisible et confondue dans sa chevelure, venait de se détacher et de faire boucle sur son front. Je tournai imperceptiblement la tête vers le public pour me rendre compte de ce que M. de Charlus avait l'air de penser de cette mèche. Mais mes yeux ne rencontrèrent que le visage, ou plutôt que les mains de Mme Verdurin, car celui-là était entièrement enfoui dans celle-ci. Mais bien vite, le motif triomphant des cloches ayant été chassé, dispersé par d'autres, je fus repris par cette musique. Et je me rendais compte que, si au sein de ce septuor, des éléments différents s'exposaient tour à tour pour se combiner à la fin, de même, la sonate de Vinteuil, et, comme je le sus plus tard, ses autres œuvres n'avaient toujours été, par rapport à ce septuor, que de timides essais, délicieux mais bien frêles, auprès du chef-d'œuvre triomphal et complet qui m'était en ce moment révélé. Et de même encore, je ne pouvais m'empêcher, par comparaison, de me rappeler que j'avais pensé aux autres mondes qu'avait pu créer Vinteuil, comme à des univers aussi complètement clos qu'avait été chacun de mes amours. Mais, en réalité, je devais bien m'avouer qu'au sein de mon dernier amour, celui pour Albertine, mes premières velléités de l'aimer, à Balbec tout au début, puis après la partie de Furet, puis la nuit où elle avait couché à l'hôtel, puis à Paris le dimanche de brume, puis le soir de la fête Guermantes, puis de nouveau à Balbec, et enfin à Paris, où ma vie était étroitement unie à la sienne, n'avaient été que des appels. De même, si je considérais maintenant, non plus mon amour pour Albertine, mais toute ma vie, mes autres amours, eux aussi, n'y avaient été que de minces et timides essais, des appels qui préparaient ce plus vaste amour, l'amour pour Albertine. Et je cessai de suivre la musique pour me redemander si Albertine avait vu ou non Mademoiselle Vinteuil ces jours-ci, comme on interroge de nouveau une souffrance interne que la distraction vous a fait un moment oublier. Car c'est en moi que se passaient les actions possibles d'Albertine. De tous les êtres que nous connaissons, nous possédons un double, mais habituellement situé à l'horizon de notre imagination, de notre mémoire. Il nous reste relativement extérieur, et ce qu'il a fait ou pu faire ne comporte pas plus pour nous d'éléments douloureux qu'un objet placé à quelque distance et qui ne nous procure que les sensations indolores de la vue. Ce qui affecte ces êtres-là, nous le percevons d'une façon contemplative. Nous pouvons le déplorer en termes appropriés qui donnent aux autres l'idée de notre bon cœur. Nous ne le ressentons pas. Mais depuis ma blessure de Balbec, c'était dans mon cœur, à une grande profondeur, difficile à extraire, qu'était le double d'Albertine. Ce que je voyais d'elle me lésait, comme un malade dont les sens seraient si fâcheusement transposés que la vue d'une couleur serait intérieurement éprouvée par lui comme une incision en pleine chair. Heureusement que je n'avais pas cédé à la tentation de rompre encore avec Albertine. Cet ennui d'avoir à la retrouver tout à l'heure, quand je rentrerai, était bien peu de chose auprès de l'anxiété que j'aurais eue si la séparation s'était effectuée à ce moment où j'avais un doute sur elle, avant qu'elle eût eu le temps de me devenir indifférente. Au moment où je me la représentais ainsi, m'attendant à la maison, comme une femme bien aimée trouvant le temps long, s'étant peut-être endormie un instant dans sa chambre, je fus caressée au passage par une tendre phrase familiale et domestique du septuor. Peut-être, tant tout s'entrecroise et se superpose dans notre vie intérieure, avait-elle été inspirée à Vinteuil par le sommeil de sa fille? De sa fille, cause aujourd'hui de tous mes troubles. Quand il enveloppait de sa douceur, dans les paisibles soirées, le travail du musicien. Cette phrase qui me calma tant par le même moelleux arrière-plan de silence qui pacifie certaines rêveries de Schumann, durant lesquelles, même quand le poète parle, on devine que l'enfant dort. Endormi, éveillé, je la retrouverai ce soir, quand il me plairait de rentrer. Albertine, ma petite enfant. Et pourtant, me dis-je, quelque chose de plus mystérieux que l'amour d'Albertine semblait promis au début de cette œuvre, dans ses premiers cris d'aurore. J'essayais de chasser la pensée de mon ami pour ne plus songer qu'au musicien. Aussi bien semblait-il être là. On aurait dit que, réincarné, l'auteur vivait à jamais dans sa musique. On chantait la joie avec laquelle il choisissait la couleur de tel timbre, la sortissait aux autres. Car, à des dons plus profonds, Vinteuil joignait celui que peu de musiciens, et même peu de peintres, ont possédé. D'user de couleurs non seulement si stables, mais si personnelles, que pas plus que le temps n'altère leur fraîcheur, les élèves qui imitent celui qui les a trouvés, et les maîtres même qui le dépassent, ne font pas lire leur originalité. La révolution que leur apparition a accomplie ne voit pas ses résultats s'assimiler anonymement aux époques suivantes. Elle se déchaîne, elle éclate à nouveau, et seulement quand on rejoue les œuvres du novateur à perpétuité. Chaque timbre se soulignait d'une couleur que toutes les règles du monde, apprises par les musiciens les plus savants, ne pourraient pas imiter. En sorte que Vinteuil, quoique venu à son heure, et fixé à son rang dans l'évolution musicale, le quitterait toujours pour venir prendre la tête dès qu'on jouerait une de ses productions, qui devrait de paraître éclose après celle de musiciens plus récents. À ce caractère, en apparence contradictoire et en effet trompeur, de durables nouveautés. Une page symphonique de Vinteuil, connue déjà au piano et qu'on entendait à l'orchestre, comme un rayon de jour d'été que le prisme de la fenêtre décompose avant son entrée dans une salle à manger obscure, dévoilait comme un trésor insoupçonné et multicolore toutes les pierreries des mille et une nuits. Mais comment comparer à cet immobile éblouissement de la lumière ce qui était vie, mouvement perpétuel et heureux? Ce Vinteuil, que j'avais connu si timide et si triste, avait, quand il fallait choisir un timbre, lui en unir un autre, des audaces, et, dans tout le sens du mot, un bonheur, sur lequel l'audition d'une œuvre de lui ne laissait aucun doute. La joie que lui avait causée telle sonorité, les forces accrues qu'elle lui avait données pour en découvrir d'autres, menaient encore l'auditeur de trouvaille en trouvaille, ou plutôt, c'était le créateur qui le conduisait lui-même, puisant dans les couleurs qu'il venait de trouver une joie éperdue qui lui donnait la puissance de découvrir, de se jeter sur celle qu'elle semblait appeler, ravie, tressaillant comme au choc d'une étincelle, quand le sublime naissait de lui-même de la rencontre des cuivres, haletant, grisé, affolé, vertigineux, tandis qu'il peignait sa grande fresque musicale, comme Michel-Ange, attaché à son échelle et lançant la tête en bas, de tumultueux coups de brosse au plafond de la chapelle Sixtine. Vinteuil était mort depuis nombre d'années, mais, au milieu de ces instruments qu'il avait animés, il lui avait été donné de poursuivre, pour un temps illimité, une part au moins de sa vie. De sa vie d'homme seulement? Si l'art n'était vraiment qu'un prolongement de la vie, valait-il de lui rien sacrifier? N'était-il pas aussi irréel qu'elle-même? À mieux écouter ce septuor, je ne le pouvais pas penser. Sans doute, le rougeoyant septuor différait singulièrement de la blanche sonate. La timide interrogation à laquelle répondait la petite phrase, de la supplication haletante pour trouver l'accomplissement de l'étrange promesse qui avait retenti, si aigre, si surnaturelle, si brève, faisant vibrer la rougeur encore inerte du ciel matinal au-dessus de la mer. Et pourtant, ces phrases si différentes étaient faites des mêmes éléments. Car, de même qu'il y avait un certain univers, perceptible pour nous, en ses parcelles dispersées çà et là, dans telle demeure, dans tel musée, et qui était l'univers d'Elstir, celui qu'il voyait, celui où il vivait, de même la musique de Vinteuil étendait, note par note, touche par touche, les colorations inconnues d'un univers inestimable, insoupçonné, fragmenté par les lacunes que laissaient entre elles les auditions de son œuvre. Ces deux interrogations, si dissemblables, qui commandaient les mouvements si différents de la sonate et du septuor, l'une brisant en courts appels une ligne continue et pure, l'autre ressoudant en une armature indivisible des fragments épars, c'était pourtant, l'une si calme et timide, presque détachée comme philosophique, l'autre si pressante, anxieuse, implorante, une même prière, jaillit devant différents levers de soleils intérieurs, et seulement réfractée à travers les milieux différents de pensées autres, de recherches d'art en progrès, au cours d'années où il avait voulu créer quelque chose de nouveau. Prière, espérance qui était au fond la même, reconnaissable sous ses déguisements dans les diverses œuvres de Vinteuil, et d'autre part, qu'on ne trouvait que dans les œuvres de Vinteuil. Ces phrases-là, les musicographes pourraient bien trouver leur apparentement, leur généalogie, dans les œuvres d'autres grands musiciens, mais seulement pour des raisons accessoires, des ressemblances extérieures, des analogies plutôt ingénieusement trouvées par le raisonnement que senties par l'impression directe. Celles que donnaient ces phrases de Vinteuil étaient différentes de tout autre, comme si, en dépit des conclusions qui semblent se dégager de la science, l'individuel existait. Et c'était justement quand il cherchait puissamment à être nouveau qu'on reconnaissait, sous les différentes apparences, les similitudes profondes et les ressemblances voulues qu'il y avait au sein d'une œuvre, quand Vinteuil reprenait à diverses reprises une même phrase, la diversifiait, s'amusait à changer son rythme, à la faire reparaître sous sa forme première. Ces ressemblances-là, voulues, œuvre de l'intelligence, forcément superficielle, n'arrivaient jamais à être aussi frappantes que ces ressemblances dissimulées, involontaires, qui éclataient sous des couleurs différentes entre les deux chefs-d'œuvre distincts. Car alors, Vinteuil, cherchant puissamment à être nouveau, s'interrogeait lui-même. De toute la puissance de son effort créateur, il atteignait sa propre essence à ses profondeurs, où, quelques questions qu'on lui pose, c'est du même accent, le sien propre, qu'elle répond. Un accent, cet accent de Vinteuil, séparait de l'accent des autres musiciens par une différence bien plus grande que celle que nous percevons entre la voix de deux personnes, même entre le beuglement et le cri de deux espèces animales. Par la différence même qu'il y a entre la pensée de ces autres musiciens et les éternelles investigations de Vinteuil, la question qu'il se posait sous tant de formes, son habituelle spéculation, mais aussi débarrassée des formes analytiques du raisonnement que si elle s'exerçait dans le monde des anges, de sorte que nous pouvons en mesurer la profondeur, mais sans plus la traduire en langage humain que ne le peuvent les esprits désincarnés, quand, évoqués par un médium, celui-ci les interroge sur les secrets de la mort. Et, même en tenant compte de cette originalité acquise qui m'avait frappé dès l'après-midi, de cette parenté que les musicographes pourraient trouver entre eux, c'est bien un accent unique auquel s'élèvent, auquel reviennent malgré eux ces grands chanteurs que sont les musiciens originaux. et qui est une preuve de l'existence irréductiblement individuelle de l'âme. Que Vinteuil essaya de faire plus solennel, plus grand, ou de faire plus vif et plus gai, de faire ce qu'il apercevait se reflétant en beau dans l'esprit du public. Vinteuil, malgré lui, submergeait tout cela sous une lame de fond qui rend son chant éternel et aussitôt reconnu. Ce chant, différent de celui des autres, semblable à tous les siens, où Vinteuil l'avait-il appris, entendu ? Chaque artiste semble ainsi, comme le citoyen d'une patrie inconnue, oublié de lui-même, différente de celle d'où viendra, appareillant pour la terre, un autre grand artiste. Tout au plus, de cette patrie Vinteuil, dans ses dernières œuvres, semblait s'être rapproché. L'atmosphère n'y était plus la même que dans la sonate. Les phrases interrogatives s'y faisaient plus pressantes, plus inquiètes, les réponses plus mystérieuses. L'air délavé du matin et du soir semblait y influencer jusqu'aux cordes des instruments. Morel avait beau jouer merveilleusement, les sons que rendait son violon me parurent singulièrement perçants, presque criards. Cette âcreté plaisait, et, comme dans certaines voix, on y sentait une sorte de qualité morale et de supériorité intellectuelle. Mais cela pouvait choquer. Quand la vision de l'univers se modifie, s'épure, devient plus adéquate au souvenir de la patrie intérieure, il est bien naturel que cela se traduise par une altération générale des sonorités chez le musicien, comme de la couleur chez le peintre. Au reste, le public le plus intelligent ne s'y trompe pas, puisque l'on déclara plus tard les dernières œuvres de Vinteuil les plus profondes. Or, aucun programme, aucun sujet n'apportait un élément intellectuel de jugement. On devinait donc qu'il s'agissait d'une transposition, dans l'ordre sonore, de la profondeur. Cette patrie perdue, les musiciens ne se la rappellent pas. Mais chacun d'eux reste toujours inconsciemment accordé en un certain unisson avec elle. Il délire de joie quand il chante selon sa patrie, la trahit parfois par amour de la gloire. Mais alors, en cherchant la gloire, il la fuit. Et ce n'est qu'en la dédaignant qu'il la trouve. Quand il entonne, quel que soit le sujet qu'il traite, ce chant singulier dont la monotonie, car quel que soit le sujet traité, il reste identique à soi-même, prouve la fixité des éléments composants de son âme. Mais alors, n'est-ce pas que, de ces éléments, tout le résidu réel que nous sommes obligés de garder pour nous-mêmes, que la causerie ne peut transmettre même de l'ami à l'ami, du maître au disciple, de l'amant à la maîtresse, cet ineffable qui différencie qualitativement ce que chacun a senti et qu'il est obligé de laisser au seuil des phrases où il ne peut communiquer avec autrui qu'en se limitant à des points extérieurs communs à tous et sans intérêt. L'art d'un Vinteuil, comme celui d'un Elstir, le fait apparaître, extériorisant dans les couleurs du spectre la composition intime de ces mondes que nous appelons les individus, et que sans l'art nous ne connaîtrions jamais. Des ailes, un autre appareil respiratoire, et qui nous permise de traverser l'immensité, ne nous servirait à rien, car si nous allions dans Mars et dans Vénus en gardant les mêmes sens, ils revêtiraient du même aspect que les choses de la Terre tout ce que nous pourrions voir. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Et cela, nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil. Avec leurs pareils, nous volons vraiment d'étoiles en étoiles. L'Andante venait de finir sur une phrase remplie d'une tendresse à laquelle je m'étais donné tout entier. Alors, il y eut, avant le mouvement suivant, un instant de repos où les exécutants posèrent leurs instruments, et les auditeurs échangèrent quelques impressions. Un duc, pour montrer qu'il s'y connaissait, déclara « C'est très difficile à bien jouer ». Des personnes plus agréables causèrent un moment avec moi. Mais qu'étaient leurs paroles qui, comme toute parole humaine extérieure, me laissaient si indifférent à côté de la céleste phrase musicale avec laquelle je venais de m'entretenir. J'étais vraiment comme un ange qui, déchu des ivresses du paradis, tombe dans la plus insignifiante réalité. Et de même que certains êtres sont les derniers témoins d'une forme de vie que la nature a abandonnée, je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être, s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. Elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suite. L'humanité s'est engagée en d'autres voies, celle du langage parlé et écrit. Mais ce retour à l'inanalysé était si enivrant qu'au sortir de ce paradis, le contact des êtres plus ou moins intelligents me semblait d'une insignifiance extraordinaire. Les êtres, j'avais pu, pendant la musique, me souvenir d'eux, les mêler à elles. Ou plutôt, à la musique, je n'avais guère mêlé le souvenir que d'une seule personne, celui d'Albertine. Et la phrase qui finissait l'andante me semblait si sublime que je me disais qu'il était malheureux, qu'Albertine ne sut pas, et, si elle avait su, n'eût pas compris quel honneur c'était pour elle d'être mêlée à quelque chose de si grand, qui nous réunissait, et dont elle avait semblé emprunter la voix pathétique. Mais, une fois la musique interrompue, les êtres qui étaient là semblaient trop fades. On passa à quelques rafraîchissements. Monsieur de Charlus interpellait de temps en temps un domestique. « Comment allez-vous? Avez-vous reçu mon pneumatique? Viendrez-vous ?» Sans doute, il y avait, dans ces interpellations, la liberté du grand seigneur qui croit flatter et qui est plus peuple que le bourgeois, mais aussi la rouerie du coupable qui croit que ce dont on fait étalage est par cela même jugé innocent. Et il ajoutait, sur le ton guermante de Madame de Villeparisis, « C'est un brave petit, c'est une bonne nature, je l'emploie souvent chez moi. » Mais ses habiletés tournaient contre le baron, car on trouvait extraordinaire ses amabilités si intimes et ses pneumatiques à des valets de pied. Ceux-ci en étaient, d'ailleurs, moins flattés que gênés pour leurs camarades. Cependant, le septuor, qui avait recommencé, avançait vers sa fin. À plusieurs reprises, telle ou telle phrase de la sonate revenait, mais chaque fois changée, sur un rythme, un accompagnement différent, la même et pourtant autre, comme renaissent les choses dans la vie. Et c'était une de ces phrases qui, sans qu'on puisse comprendre quelle affinité leur assigne comme demeure unique et nécessaire le passé d'un certain musicien, ne se trouvent que dans son œuvre et apparaissent constamment dans celle-ci, dont elles sont les fées, les dryades, les divinités familières. J'en avais d'abord distingué dans le septuor deux ou trois qui me rappelaient la sonate. Bientôt, baigné dans le brouillard violet qui s'élevait, surtout dans la dernière période de l'œuvre de Vinteuil, si bien que, même quand il introduisait quelque part une danse, elle restait captive dans une opale. J'aperçus une autre phrase de la sonate, restant si lointaine encore que je la reconnaissais à peine. Hésitante, elle s'approcha, disparut comme effarouchée, puis revint, s'enlaça à d'autres, venues, comme je le sus plus tard, d'autres œuvres, en appela d'autres, qui devenaient à leur tour attirantes et persuasives, aussitôt qu'elles étaient apprivoisées, et entrait dans la ronde divine, mais restée invisible pour la plupart des auditeurs, lesquels, n'ayant devant eux qu'un voile épais au travers duquel ils ne voyaient rien, ponctuaient arbitrairement d'exclamations admiratives un ennui continu dont ils pensaient mourir. Puis elles s'éloignèrent, sauf une que je vis repasser jusqu'à 5 et 6 fois, sans que je pusse apercevoir son visage, mais si caressante, si différente, comme sans doute la petite phrase de la sonate pour Swann, de ce qu'aucune femme m'avait jamais fait désirer, que cette phrase-là, qui m'offrait, d'une voix si douce, un bonheur qu'il eût vraiment valu la peine d'obtenir. C'est peut-être cette créature invisible dont je ne connaissais pas le langage et que je comprenais si bien, la seule inconnue qui m'ait été jamais donnée de rencontrer. Puis cette phrase se défit, se transforma, comme faisait la petite phrase de la sonate, et devint le mystérieux appel du début. Une phrase d'un caractère douloureux s'opposa à lui, mais si profonde, si vague, si interne, presque si organique et viscérale, qu'on ne savait pas, à chacune de ses reprises, si c'était celle d'un thème ou d'une névralgie. Bientôt, les deux motifs luttèrent ensemble dans un corps à corps, où parfois l'un disparaissait entièrement, où ensuite on n'apercevait plus qu'un morceau de l'autre. Corps à corps d'énergie seulement, à vrai dire. Car si ces êtres s'affrontaient, c'était débarrassés de leur corps physique, de leur apparence, de leur nom, et trouvant chez moi un spectateur intérieur, insoucieux lui aussi des noms et du particulier, pour s'intéresser à leur combat immatériel et dynamique, et en suivre avec passion les péripéties sonores. Enfin, le motif joyeux resta triomphant. Ce n'était plus un appel presque inquiet lancé derrière un ciel vide. C'était une joie ineffable qui semblait venir du paradis, une joie aussi différente de celle de la sonate que d'un ange doux et grave de Bellini jouant du théorbe pourrait être, vêtu d'une robe écarlate, quelque archange de Mantegna sonnant dans un buxin. Je savais que cette nuance nouvelle de la joie, cet appel vers une joie supraterrestre, je ne l'oublierai jamais. Mais serait-elle jamais réalisable pour moi? Cette question me paraissait d'autant plus importante que cette phrase était ce qui aurait pu le mieux caractériser, comme tranchant avec tout le reste de ma vie et avec le monde visible, ces impressions qu'à des intervalles éloignés je retrouvais dans ma vie, comme les points de repère, les amorces pour la construction d'une vie véritable. L'impression éprouvée devant les clochers de Martinville, devant une rangée d'arbres près de Balbec. En tout cas, pour en revenir à l'accent particulier de cette phrase, comme il était singulier que le pressentiment le plus différent de ce qu'assigne la vie terre à terre, l'approximation la plus hardie des allégresses de l'au-delà, se fussent justement matérialisées dans le triste petit bourgeois bienséant que nous rencontrions au mois de Marie à Combray. Mais surtout, comment se faisait-il que cette révélation, la plus étrange que j'eusse encore reçue, d'un type inconnu de joie, j'eusse pu la recevoir de lui, puisque, disait-on, quand il était mort, il n'avait laissé que sa sonate, que le reste demeurait inexistant d'indéchiffrables notations. Indéchiffrable, mais qui pourtant avait fini par être déchiffré, à force de patience, d'intelligence et de respect, par la seule personne qui avait assez vécu auprès de Vinteuil pour bien connaître sa manière de travailler, pour deviner ses indications d'orchestre, l'ami de Mademoiselle Vinteuil. Du vivant même du grand musicien, elle avait appris de la fille le culte que celle-ci avait pour son père. C'est à cause de ce culte que, dans ces moments où l'on va à l'opposé de ses inclinations véritables, les deux jeunes filles avaient pu trouver un plaisir dément aux profanations qui ont été racontées. L'adoration pour son père était la condition même du sacrilège de sa fille, et sans doute la volupté de ce sacrilège. Elles eussent dû cela refuser, mais celle-ci ne les exprimait pas tout entière. Et d'ailleurs, elles étaient allées se raréfiant jusqu'à disparaître tout à fait, au fur et à mesure que les relations charnelles et maladives, ce trouble et fumeux embrasement, avaient fait place à la flamme d'une amitié haute et pure. L'ami de Mademoiselle Vinteuil était quelquefois traversée par l'importune pensée qu'elle avait peut-être précipité la mort de Vinteuil. Du moins, en passant des années à débrouiller le grimoire laissé par Vinteuil, en établissant la lecture certaine de ces hiéroglyphes inconnus, l'amie de Mademoiselle Vinteuil eut la consolation d'assurer au musicien dont elle avait assombri les dernières années une gloire immortelle et compensatrice. De relations qui ne sont pas consacrées par les lois découlent des liens de parenté aussi multiples, aussi complexes, plus solides seulement, que ceux qui naissent du mariage. Sans même s'arrêter à des relations d'une nature aussi particulière, ne voyons-nous pas tous les jours que l'adultère, quand il est fondé sur l'amour véritable, n'ébranle pas le sentiment de famille, les devoirs de parenté, mais les revivifie? L'adultère introduit l'esprit dans la lettre que bien souvent le mariage eût laissé morte. Une bonne fille qui portera, par simple convenance, le deuil du second mari de sa mère, n'aura pas assez de larmes pour pleurer l'homme que sa mère avait entre tous choisi comme amant. Du reste, Mademoiselle Vinteuil n'avait agi que par sadisme, ce qui ne l'excusait pas, mais j'eus plus tard une certaine douceur à le penser. Elle devait bien se rendre compte, me disais-je, au moment où elle profanait avec son amie la photographie de son père, que tout cela n'était que maladie, de la folie, et pas la vraie et joyeuse méchanceté qu'elle aurait voulu. Cette idée que c'était une simulation de méchanceté seulement gâtait son plaisir. Mais si cette idée a pu lui revenir plus tard, comme elle avait gâté son plaisir, elle a dû diminuer sa souffrance. « Ce n'était pas moi, » dut-elle se dire. « J'étais aliénée. Moi, je veux encore prier pour mon père, ne pas désespérer de sa bonté. » Seulement, il est possible que cette idée, qui s'était certainement présentée à elle dans le plaisir, ne se soit pas présentée à elle dans la souffrance. J'aurais voulu pouvoir la mettre dans son esprit. Je suis sûre que je lui aurais fait du bien et que j'aurais pu rétablir entre elle et le souvenir de son père une communication assez douce. »